Get off me, keys!
Dans cette émission consacrée au stop motion et plus particulièrement au célèbre duo Wallace et Gromit, qui ont fêté leurs 35 ans. Leur nouveau film, La Palme de la Vengeance, où Gromit s'inquiète de plus en plus de la dépendance de son maître envers ses inventions, ses craintes se confirment lorsque Wallace crée le gnome intelligent, un automate qui semble prendre réellement vie et développer une volonté propre. La dernière sortie du studio Hardman, qui est aussi le studio derrière Chicken Run, parle directement de la dépendance à la technologie et de la place de l'IA dans notre vie. Le stop motion, ou animation en volume, est une technique d'animation qui consiste à photographier des objets ou des personnages, image par image, en déplaçant légèrement ceux-ci en chaque prise pour créer l'illusion de mouvement fluide lorsqu'elles sont visionnées à grande vitesse. Mais a-t-il toujours une place dans une industrie qui souhaite produire toujours plus et plus vite ? Le stop motion est une méthode qui, bien que vieille de plus d'un siècle, a encore une place de choix dans l'animation cinématographique, notamment grâce à des films comme Wallace et Gromit ou Fantastic Mr. Fox.
Bienvenue dans l'univers fantastique de Mr. Fox. On danse. Sa vie est fantastique. Sa femme est fantastique.
S'il se passe ce que je crois qu'il se passe, ça va mal se passer.
Aujourd'hui, le stop motion est souvent vu comme une technique archaïque.
Voici un extrait d'une vidéo de Bolchi Geek, un youtubeur qui aborde la culture populaire sous des angles artistiques, sociaux et politiques.
Alors, comme ça, on pourrait se dire qu'avec l'animation par ordinateur et les énormes blockbusters qui en sortent, c'est vraiment devenu archaïque. Déjà que même l'animation dessinée a bien subi cette concurrence, des figurines faites main qu'il faut bouger d'un millimètre 24 fois pour une seconde...
Mais plusieurs articles récents montrent que cette méthode résiste, s'adapte et innove toujours.
Il faut dire que cette technique va à contre-courant des tendances de l'industrie, tendances qui ne se sont pas arrangées depuis. Avec une concentration de plus en plus grande des capitaux au sein de conglomérats qui se reposent sur des superproductions calibrées aux moyens marketing hégémoniques, s'assurant ainsi de phagocyter le marché et de remplir leur raison d'être primordiale, enrichir des actionnaires qui n'acceptent rien moins que des retours sur investissement à deux chiffres.
Un article de Vox, par exemple, mentionne comment des studios comme Laika et Hardman continue de repousser les limites de l'animation en stop motion, avec des films comme Kubo et l'armure magique, sortis en 2016.
You're growing stronger. You might not want to look quite so pleased about that. We grow stronger, the world grows more dangerous. Life has a funny way of keeping things balanced.
Monkey, do you ever say anything encouraging?
I encourage you not to die.
Ou L'île aux chiens, sorti en 2018.
Le nombre de chiens a atteint des proportions colossales. Une épidémie de grippe canine se répand à travers la ville de Megazaki. Le maire, Monsieur Kobayashi, ordonne des mesures d'urgence et réclame une quarantaine rapide. L'île poubelle devient un lieu d'exil. L'île aux chiens.
Ces films combinent l'authenticité de la pâte à modeler et la modernité des technologies numériques, créant des effets visuels inédits.
Les gens, ils aiment Hardman. Et ils aiment Hardman parce que c'est fait différemment. Et cette différence fait qu'ils survivent à la concurrence du reste de l'industrie. Et ça vaut pour la technique elle-même. Oui, on peut faire plus rentable que le stop motion, mais pas si on veut du stop motion.
Comme le note un article de The Verge, ces studios arrivent à fusionner la texture unique du stop motion avec des éléments CGI, pour des résultats qui ne sont pas seulement impressionnants, mais aussi émotionnellement puissants. Les critiques de Wallace et Gromit, Le mystère du lapin-garou de 2005, ont-elles souligné la richesse du détail et l'originalité des personnages. Le site Film School Reject rappelle que ce film a, à l'époque, redonné une seconde jeunesse à cette technique, démontrant que le stop motion n'était pas seulement une solution pour un public adulte, mais qu'il avait aussi sa place dans les films familiaux. Il ne faut pas oublier qu'avant, les effets spéciaux étaient également réalisés en stop motion, comme dans Star Wars épisode 5, L'Empire contre-attaque.
Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père.
Oh, il m'en a dit assez. Il a dit que vous l'avez tué.
Non, je suis ton père.
Mais aussi dans Robocop et dans Terminator, le premier film de la saga éponyme.
Sarah Connor.
Oui.
Mais à la fin des années 80-90, de grandes avancées dans les effets spéciaux en 3D, une technique moins contraignante et plus flexible, rafle définitivement la vedette au stop motion. Phil Tippett, directeur d'effets visuels pour les films comme Star Wars ou Jurassic Park, déclare la fin du stop-motion dans les années 80. Il abandonne son projet de long-métrage Mad God, un projet qu'il va reprendre des années plus tard grâce au financement participatif. Mais comme dit précédemment, le stop motion résiste et reste une des manières de créer une animation la plus accessible pour le grand public, mais qui a un mode de production la moins efficace. Avant leur grand succès, Aardman Studios créait plus ou moins 30 minutes de film par an. Impossible de parler de stop-motion helvétique sans évoquer Claude Barras.
Bonjour, je m'appelle Claude Barras, j'ai grandi en Valais et j'ai fait une école d'illustration. Ensuite, j'ai fait plusieurs courts-métrages d'animation et un premier long-métrage qui s'appelle « Ma vie de courgette » avec des marionnettes.
Elle était gentille avec toi, ta maman ?
Elle buvait beaucoup de bière, mais elle faisait de la bonne purée.
Bon, il est où ton papa ?
Là.
Je vais t'emmener dans un endroit avec d'autres enfants comme toi, sans papa et sans maman.
Je vous présente votre nouveau camarade, Icar.
Il préfère qu'on l'appelle Courgette.
Moi, je dirais plutôt Patate, vu sa tête.
Simon, ça suffit.
Je vais rentrer chez moi avec ma maman.
C'est impossible, Courgette. Elle est partie, ta maman, elle est au ciel.
Hé, lâche ça !
Ça sent trop, trop balèze, Courgette.
On est tous pareils. Il n'y a plus personne pour nous aimer.
Ce film, qui a été nommé aux Oscars et a remporté un César, raconte l'histoire poignante d'un jeune garçon dans un orphelinat. Ce chef-d'œuvre montre comment le stop-motion peut allier émotion profonde et innovation technique.
Mon producteur sur Ma vie de courgette disait que j'étais un peu le Ken Loach de l'animation. Et ça m'a fait sourire, mais quelque part, c'est vrai que j'essaye d'amener des histoires réalistes, très documentées aux enfants qui parlent de problématiques actuelles, quotidiennes. Et... en animation avec un peu de poésie et de la délicatesse. Et c'est vrai que c'est pas parce que le sujet est très dur qu'on doit l'éviter. Le sujet peut être très dur, mais après, avec les enfants, il faut être simple et cette voie de simplicité que j'aime bien explorer. Ouais.
Le travail de Barras a placé la Confédération helvétique sur la carte de l'animation mondiale. Au-delà de Barras, la Suisse est également un centre dynamique pour l'animation stop-motion. Des festivals comme celui de Lausanne ou de Genève offrent une vitrine aux talents locaux, tandis que des studios comme Laika bénéficient de collaborations avec des artistes suisses. La tradition artisanale associée à des technologies modernes donne à cette forme d'animation une dimension unique.
Même si je fais du cinéma, j'aime bien travailler moi concrètement avec des objets, avec des artisans. Et le stop motion n'est pas fait pour ça, parce qu'il y a de la technologie, il y a de l'impression 3D, il y a de la prise de vue digitale, mais il y a aussi beaucoup d'artisanat. Et on passe un peu plus de temps... à travailler de la matière qu'à regarder des écrans, et pour moi c'est le bon équilibre pour faire des films.
Il faut à peu près 4 mois pour fabriquer une marionnette. Si on met bout à bout les heures de tous les techniciens, il y a les gens qui fabriquent les armatures qui sont à l'intérieur, puisqu'on peut bouger vraiment image par image la marionnette et elle reste en place, donc grâce à l'armature qu'il y a dedans. C'est de la mousse de latex et du silicone et des petits habits qui sont faits par les costumières. Donc il y a tout un artisanat, toute une chaîne d'artisanat qui se met en place avec 35 personnes environ qui ont bossé pendant un an pour fabriquer toutes les marionnettes du film, une centaine en tout.
L'animation helvétique est effectivement en pleine forme. Le nombre de productions n'a cessé d'augmenter au cours des 15 dernières années, tant dans le domaine du court que du long métrage. L'importance des coproductions ne cesse également de croître.
Après, pour la fabrication du film lui-même, je pense qu'ayant des petits budgets, on a beaucoup plus de liberté éditoriale.
Au moment du tournage, la mise en scène est déjà faite, parce qu'on a enregistré les voix des comédiens, comme une fiction classique, sauf qu'on ne tourne pas, donc ça va plus vite, mais disons... Et puis j'ai déjà monté les voix des comédiens, donc j'ai déjà 87 minutes de bande-son avec les voix des comédiens. Et là-dessus, je fais un storyboard avec une petite équipe, et c'est là que j'essaye des choses en montage. Et puis une fois que tout ça est terminé, j'ai le film qui est mis en scène, mais il faut encore le fabriquer.
En 2022, le Festival international du film d'animation d'Annecy, qui est le plus important festival d'animation au monde, a rendu hommage à la Suisse. Des rétrospectives consacrées à Marcel Barelli, Claude Barras et Isabelle Favez.
Merci de m'avoir écouté, bonne fin de journée et surtout, n'oubliez pas de regarder Voilà c'est qu'on mute.